Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, fidèles auditrices, auditeurs de VOA Afrique. Eric Madinakis avec vous en direct de Washington. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, édition du vendredi 10 février 2017, dont voici d'abord le sommaire. La justice française se déclare incompétente pour juger la catastrophe ferroviaire d'octobre dernier au Cameroun. En Côte d'Ivoire, les casquets bleus de l'ONU se préparent pour quitter le pays. La CDAO réduit son effectif militaire en Gambie à 500 hommes à partir du 21 février. Et en international, nouveau camouflé à Donald Trump, la Cour d'appel de San Francisco a maintenu la suspension de son décret controversé sur l'immigration. Au Nigeria, au moins 8 soldats ont péri aujourd'hui dans une embuscade de Boko Haram tendue dans le nord-est du pays, ont indiqué des sources sécuritaires. L'attaque, confirmée par un membre d'une milice d'autodéfense, a eu lieu dans le village d'Adjirine, environ 50 km à l'est de Maïdougouri. La force ouest-africaine de la CDAO, déployée en Gambie le mois dernier pour installer le président Adama Barrow au pouvoir, sera réduite de 4000 à 500 soldats ce mois-ci, n'est-ce pas Jacques ?
Cette diminution progressive des troupes doit démarrer au plus tard le 19 février. D'après un communiqué émis par le bureau du président, lu à la télévision d'État, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest avait lancé le 19 janvier une opération militaire en Gambie, formée officiellement de soldats de 5 pays membres. Leur mandat initial consistait à contraindre au départ le président sortant Yahya Jammeh, qui refusait de céder le pouvoir au président élu Adama Barrow après la présidentielle du 1er décembre dernier. Monsieur Jammeh a finalement quitté le pays le 21 janvier pour un exil en Guinée équatoriale. Un précédent communiqué de la présidence gambienne, publié mercredi, annonçait un prolongement de 3 mois renouvelable de la mission de la CDAO pour renforcer la sécurité du pays. Le Sénégal, le Nigeria et le Ghana maintiendront l'effectif de quelques 500 hommes sur le sol gambien à partir du 21 février, d'après le général sénégalais François Ndiaye, commandant des troupes de la CDAO. Le désengagement graduel des forces terrestres se fera après le départ des composantes aériennes et navales, à compter donc du 19 février.
Et puis Jacques, notez que ce n'est pas seulement en Gambie où on réduit la force étrangère. En Côte d'Ivoire, les soldats des forces spéciales qui s'étaient mutinés mardi dans leur base d'Adiaké à 90 km à l'est d'Abidjan pour réclamer des primes ont mis fin hier à leur mouvement, a affirmé un haut gradé de l'armée. Des commerces et écoles ont rouvert et l'ONUCI doit quitter le pays. Nous le verrons dans la deuxième partie de cette édition, Jacques. La justice française s'est déclarée incompétente pour mener une enquête dans une affaire qui met en cause la filiale camerounaise du groupe français Bolloré. En octobre dernier, un train qui assurait la liaison entre Yaoundé et Douala a déraillé près de la gare d'Essaka, faisant 79 morts au moins. Et au moins 550 blessés, comme le dit Anastasie Toudiech.
Après la catastrophe, plusieurs organisations camerounaises s'étaient portées partie civile et avaient déposé plainte à Nanterre, notamment pour homicides et blessures involontaires et mise en danger de la vie d'autrui. Les plaignants mettaient en cause la gouvernance du transport ferroviaire par l'État camerounais et s'interrogeaient sur les conditions de privatisation de la Société nationale des chemins de fer. Camrail est contrôlé à plus de 77% par le groupe français Bolloré, dont le siège est près de Nanterre. Porter plainte dans cette ville, c'était pour l'avocat des plaignants le moyen d'agir au plus près de celui qui contrôle le capital. Mais le parquet de Nanterre s'est dit incompétent, car les victimes françaises ne vivaient pas à Nanterre. Une enquête judiciaire est en cours au Cameroun.
Anastasie Toudiech, la RDC est confrontée à un énorme défi humanitaire. L'ONU estime les besoins à 2,3 milliards de dollars pour 3 ans. Le plan de réponse humanitaire publié aujourd'hui à Kinshasa parle de 6,7 millions de personnes vulnérables cette année. Ce chiffre devra atteindre 7,2 millions en 2019. La plupart des besoins sont concentrés dans les zones de conflit à l'est du pays, précise le document de l'OCHA. Il existe aussi des poches de vulnérabilité ailleurs dans ce pays frappé depuis plusieurs décennies par une crise aiguë et prolongée. Toujours en RDC, l'opposition réunie au sein du rassemblement peine à choisir le successeur d'Étienne Tshisekedi qui devait diriger le Conseil national de suivi de l'accord de la Saint-Sylvestre. Plusieurs dirigeants d'opposition briguent déjà ouvertement la présidence de ce conseil en remettant en cause ce qu'ils percevaient comme une position hégémonique de l'UDPS. Cependant, le pouvoir de Kinshasa affirmait que le choix du titulaire de ce poste devra faire l'objet d'un nouveau consensus entre la majorité et l'opposition. Enfin, le procès de l'ancien chef de guerre congolais Germain Katanga, repris aujourd'hui à Kinshasa devant la cour militaire après 8 mois de suspension, il est poursuivi pour crime contre l'humanité. Au Soudan du Sud, le médiateur régional et ancien président du Botswana, Festus Mogae, a déploré la naissance de nouvelles milices armées dans les provinces méridionales d'Équatoria. Devant la presse à Nairobi, M. Mogae a décrit une mosaïque de groupes aux agendas variés, témoignant de la complexité du conflit sud-soudanais. Il préside la commission de surveillance et d'évaluation de l'accord de paix d'août 2015. En Libye, le patron de l'ONU, Antonio Guterres, veut confier la tâche de représentant spécial à l'ancien premier ministre palestinien Salam Fayyad. Il sera en charge des pourparlers sur un accord politique. Monsieur Fayyad va remplacer l'Allemand Martin Kobler en poste depuis novembre 2015. L'ancien président tunisien Zine Al-Abidine Ben Ali et son épouse Leila Trabelsi ont écopé chacun de 10 ans de prison pour corruption, a indiqué hier le porte-parole du parquet de première instance de Tunis. Ils avaient été déjà condamnés à de multiples reprises par contumace.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ailleurs dans le monde, 2 mois après un coup de fil retentissant avec Taïwan, Donald Trump a apaisé la tension avec la Chine. Le président américain a assuré à son homologue chinois Xi Jinping au téléphone qu'il respecterait le principe d'une seule Chine. Salwa Jafari pour les détails.
À Pékin, l'heure était à l'optimisme aujourd'hui.
Ensemble avec les États-Unis, nous voulons faire des efforts conjoints pour élargir notre coopération dans l'esprit de ce dialogue récent et pour renforcer nos relations bilatérales afin d'obtenir plus et des meilleurs résultats.
Lors d'un entretien téléphonique, Donald Trump et Xi Jinping ont discuté de nombreux sujets et le président américain a accepté de respecter le principe d'une seule Chine. Dans un entretien au quotidien Wall Street Journal en janvier, Donald Trump avait indiqué être prêt à remettre en cause le principe, estimant que tout était sur la table, y compris la Chine unique. La Chine interdit à tout pays avec lequel elle a des relations diplomatiques d'en avoir simultanément avec Taïwan. Washington a ainsi coupé ses liens en 1979 avec Taïwan et reconnu le régime communiste de Chine continentale comme l'unique autorité légitime chinoise.
Au Yémen, 3 agences de l'ONU ont lancé aujourd'hui un appel à une aide d'urgence pour éviter une catastrophe. Près des 2/3 de la population peinent à se nourrir, principalement à cause du conflit. Les précisions de John Lyndon.
Selon une évaluation réalisée par l'OPAM, la FAO et l'UNICEF, plus de 17 sur les 27 millions de Yéménites ont des difficultés à se nourrir. 7 millions de personnes ont besoin d'une aide alimentaire d'urgence, soit 3 millions de plus qu'à l'été 2016. Le taux de malnutrition a atteint le seuil critique de plus de 15% de la population dans 4 régions. La vitesse à laquelle la situation se détériore est extrêmement préoccupante, a déclaré Salah El-Hadj Hassan, représentant de la FAO au Yémen. Steven Anderson, directeur du PAM, a prévenu que 7 millions de personnes risquaient de ne pas pouvoir survivre si la situation devait perdurer. Chez les enfants, l'UNICEF parle de taux de malnutrition jamais atteint. Le Yémen est déchiré depuis 2015 par un conflit qui a fait plus de 7 400 morts et plus de 40 000 blessés. Mercredi, l'ONU a réclamé un peu plus de 2 milliards de dollars pour aider rien que cette année 12 millions de personnes affectées par ce conflit, donc 2 millions d'enfants qui souffrent de graves malnutritions.
Signalons, John, que les forces gouvernementales au Yémen ont repris aujourd'hui le contrôle total de la ville portuaire de Mocha. Cette victoire marque des points dans leur vaste offensive contre les rebelles lancée il y a un mois pour reconquérir des régions sur la mer Rouge. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a donné aujourd'hui son feu vert à une réforme constitutionnelle qui vise à élargir ses prérogatives. Il ouvre la voie à une consultation populaire sur le texte le 16 avril. Les opposants à cette mesure estiment que M. Erdogan, dont les pouvoirs seraient considérablement renforcés, échapperait à tout contrôle. En Haïti, l'ONU veut retirer ses casquets bleus sans toutefois renoncer à sa mission. Le secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix a déclaré hier à Port-au-Prince que les tâches militaires ne s'imposent plus dans le contexte sécuritaire du pays. En revanche, il a indiqué que beaucoup de travail reste à faire sur la police, l'état de droit, sans oublier les droits de l'homme, dont le statut de la femme notamment. Un agriculteur français devenu le symbole de l'aide aux migrants à la frontière franco-italienne, Cédric Héroux, a été condamné aujourd'hui à 3 000 € d'amende avec sursis par la justice française. Il était jugé pour avoir aidé des migrants venus d'Italie à franchir clandestinement la frontière française. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'essentiel de l'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Muniteco signée Morgane Guiriec.
La conférence Mining Indaba sur le secteur minier s'est achevée hier au Cap en Afrique du Sud. L'occasion pour Jeune Afrique de faire le point sur l'attractivité des pays du continent. Parmi les pays en vogue, on retrouve donc la Côte d'Ivoire et la Guinée. En revanche, la République démocratique du Congo est en baisse, notamment en raison de la crise politique qui inquiète les investisseurs. L'Angola et le Tchad cherchent à développer leurs relations économiques. L'idée est de trouver des hommes d'affaires pour des investissements réciproques, d'après le gouvernement angolais, où s'est rendu le ministre tchadien des infrastructures et du désenclavement. Sont notamment visés les transports et l'agriculture. Cdiscount met fin à son aventure africaine. Le leader français du commerce électronique a fermé sa dernière filiale active sur le continent, celle de Côte d'Ivoire. Sont notamment en cause la mauvaise gestion des livraisons et le manque de partenaires sur place, indique Jeune Afrique.
Et nous ouvrons la page sportive avec Nicolas Pinault. Bonsoir Nico.
Bonsoir Eric.
D'abord en athlétisme, record du monde du semi-marathon pour une Kenyane.
Pérès Jepchirchir a amélioré le record du monde du semi-marathon en 1h, 5 minutes et 6 secondes, 3 secondes de mieux que la précédente marque de sa compatriote Florence Kiplagat. La course a eu lieu aux Émirats Arabes Unis et la performance de Jepchirchir est d'autant plus remarquable que la jeune femme âgée de 23 ans avait souffert l'année dernière d'une pneumonie.
Caster Semenya récupère une médaille d'or.
Maria Savinova-Farnosova a été suspendue car des preuves évidentes de dopage existent. L'athlète russe s'est vu retirer sa médaille d'or sur 800 mètres obtenue lors des Jeux Olympiques de Londres. Elle a été suspendue pour 4 ans pour dopage. C'est ce qu'annonce le tribunal arbitral du sport. C'est donc la Sud-Africaine Caster Semenya qui récupère le titre de championne olympique du 800 mètres au JO 2012.
En football, le Cameroun et l'Égypte bondissent au classement FIFA, Nico.
Ouais, les nations africaines qui se sont illustrées lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2017, notamment les deux finalistes, le Cameroun et l'Égypte, eh bien ces deux pays bondissent au classement FIFA. L'Égypte, finaliste malheureux, est devenue la nation africaine la mieux classée, 23e, alors que le Cameroun, vainqueur du tournoi, a bondi de 29 rangs et se classe désormais 33e, deux longueurs derrière le Sénégal, 31e. La Côte d'Ivoire, en revanche, qui s'est faite sortir dès le premier tour, malgré son statut de tenante du titre, a dégringolé de 13 rangs, elle est désormais 47e. L'Algérie, également sortie de le premier tour, chute de 11 places et occupe la 50e place.
Enfin, Nico, un mot de NBA, championnat de basket nord-américain.
Russell Westbrook a fait un pas de plus vers le titre de meilleur joueur de la saison en terrassant LeBron James et Cleveland 118-109, avec en prime son 26e triple-double de la saison. Le meneur d'Oklahoma City a fini la rencontre avec 29 points, 12 rebonds et 11 passes décisives. Boston a renoué avec la victoire en battant Portland dans sa salle 120-111. Quant à l'équipe de Dallas, elle a fait chuter Utah 112-105.
Et c'est tout pour les sports. Merci Nico.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Eric Manirakiza. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Le président américain Donald Trump a qualifié ce matin de décision scandaleuse le jugement de la Cour d'appel de San Francisco hier qui a maintenu la suspension de son décret très controversé limitant l'immigration. Pour savoir les options qui s'offrent au président américain, Claire Morin-Gibourg a joint l'avocate spécialisée sur les politiques d'immigration, Smita Dazo.
Premièrement, il peut aller au Cour suprême, parce qu'il a mentionné sur Twitter que peut-être qu'il va faire ça. Mais ce n'est pas idéal, parce que ce qui s'est passé récemment, c'est seulement une ordonnance d'interdiction temporaire. Okay? Donc, c'est plus ou moins 14 jours. Donc, après, le juge dans l'État de Washington, il peut faire une injonction préliminaire qui a beaucoup plus de temps que 14 jours. Donc, président Trump, il peut retourner à l'État de Washington pour continuer avec le même juge pour essayer de se battre sur l'injonction préliminaire. Ou il peut demander au cours d'appel de Ninth Circuit d'avoir une audience en banque. Ça veut dire avec plus de juges. Parce que cette fois, il n'y avait que 3 juges. Donc il peut demander d'avoir une audience de 11 juges. Mais le Ninth Circuit est un cours vraiment libéral. Donc je ne sais pas non plus si c'est une bonne idée.
Est-ce qu'il serait possible qu'il signe un nouvel executive order?
Bien sûr, c'est un de ses droits comme président. Donc, à n'importe quel moment, il peut faire des ordres exécutifs, oui.
Et là, ça voudrait dire qu'on peut repartir à zéro. Une cour peut bloquer ce décret?
Ça dépend, parce que s'il continue dans le même sens, il doit essayer au moins d'écrire un ordre exécutif qui est constitutionnel. Sinon, il y aura quand même les mêmes problèmes. Parce que n'importe quelle cour, n'importe quel tribunal aux États-Unis peut dire que l'ordre exécutif n'est pas constitutionnel ou n'est pas légal.
Donc, grosso modo, pendant les 4 années qui arrivent, est-ce qu'on peut aller d'executive order à des blocages par différents tribunaux?
Oui, je pense. Parce que dans les 21 jours, ou peut-être un peu plus que ça, qu'il est président, je sais qu'il y a au moins 7 ou 8 ordres exécutifs qu'il avait déjà faits qui sont maintenant au tribunal différent aux États-Unis. Beaucoup de gens ont donné beaucoup d'argent au ACLU. Ils vont lutter comme ils peuvent.
Smita Dazo, avocate spécialisée sur les politiques d'immigration.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Retour sur le continent africain. L'ONU, la mission des Nations Unies en Côte d'Ivoire, confirme son retrait définitif à partir de la semaine prochaine. Malgré les récents remous dans l'armée avec différents corps qui réclament des primes, la chef de la mission onusienne se dit confiante, demandant néanmoins aux soldats ivoiriens de faire la discipline leur priorité. Abdourahmane Dieh a joint à New York Madame Aïchatou Mindaoudou, qui revient d'abord sur le plan de transfert des activités à Abidjan, chiffré à 250 millions de dollars.
Dans ce plan de transfert des activités, nous avons identifié 6 domaines qui nécessitent une attention particulière. Il s'agit de la cohésion sociale, il s'agit de la réconciliation nationale, de la réforme du secteur de sécurité, il s'agit des droits de l'homme, il s'agit aussi de tout ce qui concerne les aspects de consolidation de la réintégration des ex-combattants. Il s'agit également de tout ce qui est relatif aux militaires et aux policiers.
L'ONU, si, disons, les casques bleus quittent la Côte d'Ivoire dans un contexte où on a vu des remous avec différents corps d'armée, est-ce que cela ne vous inquiète pas un peu?
L'ONU, si, a consacré beaucoup d'efforts, beaucoup de temps, beaucoup de ressources et d'énergie à rebâtir la confiance entre les populations et leur armée. C'est un travail qui a porté ses fruits et vous conviendrez avec moi que l'attitude des soldats que nous avons enregistrée depuis le début du mois de janvier n'est pas du tout de nature à aller dans le sens de la consolidation de cette confiance entre eux et les populations dont ils ont l'objectif premier de protéger. Et troisièmement, la Côte d'Ivoire a quand même ambitionné, et le Conseil de sécurité l'a décidé, que la Côte d'Ivoire puisse participer pour jeter des troupes au sein des missions de maintien de la paix. Cette attitude des soldats est une attitude qui démontre une discipline notoire et un manque de conformité à la déontologie militaire, et cela doit changer. Vous avez suivi avec moi sur les médias, jamais, à aucun moment, ils n'ont remis en cause les institutions républicaines de la Côte d'Ivoire.
Maintenant, pour ce qui est de la réconciliation nationale, le chemin est encore loin.
Premièrement, monsieur, la réconciliation nationale, c'est une œuvre de longue haleine. Et dans tous les pays du monde qui se sont engagés dans cette voie suite à un conflit ou à une crise, ça a pris du temps. L'essentiel a consisté pour les Nations Unies d'accompagner les Ivoiriens pour que la réconciliation nationale s'enclenche. Elle s'est enclenchée.
Aïchatou Mindaoudou, patronne de la mission des Nations Unies en Côte d'Ivoire.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24h sur 24.
Nous quittons l'Afrique de l'Ouest pour aller dans la région des Grands Lacs. Le Parlement de Kigali a adopté hier le swahili comme quatrième langue officielle du Rwanda. En quoi cette langue va-t-elle apporter au Rwandais? Sanou Blanche a joint à Kigali le directeur de la radio-télévision Contact FM, Albert Ludatsimbugwa.
Il y a un souci de suivre un agenda d'intégration régionale. Et dans la partie de l'Afrique de l'Est dans laquelle le Rwanda se retrouve, le swahili est quand même une langue majeure et qui réunit beaucoup de pays. C'était tout à fait normal que le Rwanda aussi, pour finir, adopte le swahili comme une langue officielle.
Alors, concrètement, comment est-ce que cette adoption va se traduire?
Son exploitation, je dirais que ça va, j'imagine, être en phase dépendant des priorités du pays et une gestion des ressources. Petit à petit, on va commencer à l'intégrer aussi dans le reste de l'administration et surtout dans l'éducation. Mais j'imagine que tout cela, c'est une question de gestion de ressources parce que c'est quand même lourd d'avoir quatre langues officielles.
Quel sera l'impact de cette décision sur l'aspect économique?
Au départ, c'est quand même plus symbolique parce que, je dirais, il y a déjà des gens qui traitent d'économie en général, des acteurs économiques, parlent déjà swahili. Le premier impact, effectivement, c'est le fait que nous avons un passeport. Le passeport commun d'Afrique de l'Est va faire en sorte que maintenant, de toute façon, je veux dire, il y a aussi en swahili. Et il y a des gens d'ailleurs qui ne parlent pas d'autres langues que des langues africaines. Il y a aussi cela. Donc, effectivement, je crois qu'ils vont trouver ça une excellente idée.
Alors, est-ce que le pays dispose, par exemple, des ressources nécessaires pour l'adoption au niveau de l'aspect éducatif?
Le Rwanda, en fait, se reconstruit depuis 1994 et que le Rwanda a beaucoup investi dans l'éducation puisque ça fait partie de sa vision 2020 que ce pays se transforme aussi dans une société du savoir. Et, on a aussi construit les infrastructures qui vont avec pour pouvoir permettre que cette jeunesse puisse aller à l'école.
Albert Ludatsimbugwa à Kigali.
La Voix de l'Amérique à Kigali, au Rwanda, sur 104.3 FM.
Retour sur le phénomène des taxis à gaz au Burkina Faso, cette fois-ci avec une personne opposée à cette pratique peu coûteuse. Pour comprendre les arguments des détracteurs des taxis à gaz, Dili Diko a joint à Ouagadougou Adama Emmanuel Nakulma, président de la Fédération nationale des syndicats des taximens et des acteurs du transport urbain du Burkina Faso.
Nous sommes contre les taxis à gaz. Tout simplement, le gaz n'est pas fait pour les taxis. Le gaz est fait pour les ménages de nos femmes, nos mamans et autres préoccupations. Maintenant, si aujourd'hui, les taximens utilisent ça comme une source d'énergie dans les véhicules, ce n'est pas normal. Et encore, c'est parce que l'État l'a subventionné. Si l'État n'avait pas subventionné le gaz, les taximens ne pouvaient pas utiliser le gaz comme source d'énergie. Donc nous, on a lancé un appel à tous nos camarades taximens qui circulent avec le gaz dans les taxis d'arrêter sa société. Vraiment interdit. Et encore, je dis, l'installation du gaz, même dans les taxis, est anarchique. Et anarchique parce que c'est pas le véhicule ne peut pas sortir avec le gaz. Si c'est le véhicule qui sort en hybride avec le gaz, on peut les accepter. Parce que le véhicule en hybride, c'est fabriqué comme ça en gaz. Mais il n'y a pas ça actuellement au Burkina. Il n'y a même pas de réglementation sur ça. Et le gaz que les gens utilisent pour mettre dans les taxis, c'est pas le gaz même qui est conseillé, même pour qu'on puisse utiliser dans les véhicules. C'est le gaz de ménage. Donc, c'est pas fait pour le taxi.
Vous avez parlé de la façon anarchique dont l'installation est faite pour les taxis à gaz. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment ils transforment une voiture à essence en taxi à gaz ?
Pour mettre un véhicule à essence à gaz, il suffit seulement de chercher une bouteille de 12 kg ou soit une bouteille de 6 kg. On prend un rapport au moins de 1,50 m. On met dans le coffre, on amène le rapport sur le capot, on l'alimente avec le carburateur, on cherche un appareil éclaté qui bloque l'arrivée du gaz, les va-et-vient du gaz, on l'installe et on envoie le rapport sur le carburateur et l'autre là, le retour maintenant qui repart sur la bouteille. Dès qu'on installe sur le carburateur, on allume sur le pape, ça démarre, c'est pas. Ceux qui l'empruntent là-bas, déjà, c'est très dangereux. Et encore, vous ne pouvez pas l'installer comme ça et puis vous ne pouvez pas ne pas avoir de faire de fuite. Les fuites là, c'est un problème. Nous, on n'est pas d'accord. Très dangereux.
Les coûts sont différents, donc est-ce que vous craignez la compétition des taxis à gaz ?
Alors vous voyez pourquoi les gens utilisent le gaz, c'est parce que si on met le gaz dans le taxi, la consommation est vraiment moins chère. Quand vous prenez une bouteille de 12 kg, vous pouvez faire au moins 200 et quelques kilomètres. Alors qu'en essence, si vous mettez au moins 5 000 grammes d'essence, vous ne pouvez même pas faire 45 km aller-retour. Il y a encore un véhicule qui fume, il y a une autre pollution. Si vous utilisez le gaz, le véhicule ne fume plus.
Quelles sont vos demandes aux autorités burkinabées ?
On a demandé à l'État de voir s'il peut vraiment renouveler le parc de taxis. Parce que notre parc est calme vécu. Donc nous avons demandé à l'État, l'État n'a qu'à voir s'il peut vraiment nous aider. Mais ils ont pris l'engagement qu'ils vont vraiment nous accompagner. Mais comme ils ont dit qu'ils vont nous accompagner, je pense qu'il ne doit pas avoir un problème de ce côté.
Adama Emmanuel Nakulma, dans la capitale des hommes intègres.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque vendredi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, Island Music, la bonne musique des Caraïbes. Ne ratez pas votre émission interactive. Participez en direct. RM Show vous dit Peace Africa.
Désolé d'interrompre cette belle mélodie, ainsi va le monde aujourd'hui. VOA Afrique en direct de Washington. Voilà pour cette édition de 17h30 en universel. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Michel Joseph pour le suivi de l'actualité et la mise en onde, aidé par Nick Ifanov. Un grand merci à toute la rédaction. Eric Amman et Lakiza à Washington vous retrouve à 18h30 temps universel. Bonne journée.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.